Europe Soir,
le 18-20.
Isabelle Millet.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec, dans un tout petit instant, le journal de Christophe Lamarre. Juste après, on ouvrira ensemble, comme tous les soirs, le débat du Club des Idées. Et ce soir, alors que l'on parle beaucoup de la Birmanie, vous le savez, en ce moment, dans l'actualité, on va revenir sur le parcours d'une femme qui fut une icône, une égérie, madone de la démocratie, prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, adulée par la communauté internationale avant de devenir paria, dénoncée pour son silence coupable sur le génocide des Rohingyas. Son histoire est passionnante et elle nous permettra aussi de mieux comprendre ce qu'il se passe en ce moment en Birmanie. On en débattra dans 20 minutes. Juste avant, ce sera la carte blanche du jour avec une nouvelle venue ce soir pour cet exercice, la philosophe et sociologue Dominique Méda, qui plaidera pour la mise en place d'un revenu universel, mais pas à n'importe quelle condition. Mais d'abord, le point sur l'info, tout de suite avec vous, Christophe Lamarre. Il est 19h, merci d'écouter Europe 1.
Déjà 140 personnes sur ma patientèle perso. Des personnes de entre 50 et 64 ans qui ont des comorbidités, il y en a beaucoup.
Les généralistes dans les starting blocks, à partir de demain, ils pourront vacciner à leur tour dans leur cabinet. Plus de la moitié d'entre eux ont réservé des doses et des rendez-vous.
Dunkerque passe en mode confinement week-end. Interdiction de sortir à partir de vendredi 18h jusqu'à lundi matin 6h. Annonce du ministre de la Santé. Et d'autres départements et agglomérations pourraient bien connaître le même sort.
Le scandale après les révélations sur une fuite massive de données médicales. Les informations personnelles de près d'un demi-million de personnes se sont retrouvées diffusées sur Internet.
Ils avaient mis à sac la commanderie, le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. 14 supporters étaient devant le tribunal aujourd'hui.
En Allemagne, un verdict historique pour un procès qui ne l'est pas moins. Un ancien espion syrien condamné à 4 ans et demi de prison pour les atrocités commises par le régime de Bachar el-Assad. Et puis un tableau inédit de Van Gogh bientôt aux enchères, scène de rue à Montmartre. Estimation entre 5 et 8 millions d'euros.
Anissa Haddadi, est-ce que le printemps va se poursuivre demain ?
Oui, sur une grande partie du pays, Isabelle. Attention tout de même, le ciel se couvre dans le nord-ouest et sur le golfe du Lion. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
On reviendra bien sûr sur l'annonce de la soirée Dunkerque confinée le week-end, mais en attendant, on s'en remet plus que jamais à la campagne de vaccination.
Oui, une campagne qui va encore accélérer à partir de demain, puisque les généralistes entrent en scène. Un sur deux a déjà pris rendez-vous et commandé donc les fameuses doses d'AstraZeneca. Pierre Trileschi, par exemple, il est prêt. Ce généraliste basé à Strasbourg est même impatient de piquer ses premiers patients.
Alors pour moi, première injection demain après-midi, c'est mes collègues qui commencent demain matin. On s'est organisé un flacon par médecin, donc nous sommes quatre flacons, 40 doses. On a listé les patients à qui on propose la vaccination. J'ai compté combien j'avais de patients éligibles. J'ai déjà 140 personnes sur ma patientèle perso. Des personnes de entre 50 et 64 ans qui ont des comorbidités, il y en a beaucoup. Et ce qui m'a surpris, c'est que certains patients ont dit « c'est quel vaccin ?» Quand ils ont appris que c'était du vaccin AstraZeneca, ils m'ont dit « Oh, vous croyez que c'est sûr, c'est bien, j'ai entendu dire qu'il y a des grosses réactions. » Et donc, certains ont refusé. Et puis, certains qui me disent « Oui, ils ont pris rendez-vous, j'attends demain pour les voir s'ils sont là. » J'ai des gens en réserve au cas où ils ne soient pas là, parce que j'ai toujours cette crainte de préparer des doses et de ne pas pouvoir les utiliser.
Voilà, Pierre Trileschi, il est médecin généraliste à Strasbourg et il était au micro de notre correspondant Arthur Nbaché. Sur le plan sanitaire, on le disait, la situation continue de se dégrader dans une dizaine de départements et ce soir, Dunkerque, c'est ce qu'il attend à cette fois.
Oui, même régime que pour les Alpes-Maritimes, un confinement dès ce week-end, interdiction de sortir, sauf autorisation particulière entre vendredi 18h et lundi matin 6h. Les 10 plus grands centres commerciaux de l'agglomération vont devoir fermer. Seul le mode cliquer-emporter sera possible.
L'exécutif parle d'une situation qui se dégrade. C'est le cas en particulier en Île-de-France, mais au-delà de la région parisienne, cette situation elle est très préoccupante dans une dizaine de départements, comme le confirme aujourd'hui le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Depuis quelques jours, le nombre de contaminations et le taux d'incidence repartent à la hausse. Si le nombre de nouveaux cas avait diminué de 10% la semaine dernière, il a augmenté de quasiment 10% sur la semaine qui vient de s'écouler. La situation se dégrade et elle est même préoccupante, très préoccupante, dans une dizaine de départements et dans certains territoires imposent même des décisions et des mesures rapides et fortes. Notre ligne de conduite n'a pas changé. D'abord, des ripostes ciblées, des mesures de freinage précises et les étendre si cela est nécessaire. Nous savons combien la situation est difficile. Nous savons quelles sont les craintes, la lassitude des Français face à l'épidémie et nous la comprenons. Mais nous marchons aujourd'hui tous ensemble sur un fil et nous devons donc continuer tous ensemble à tenir ensemble.
Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sur les mesures de restriction envisagées et la suite des événements. On devra en savoir un peu plus demain soir après la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex.
Et sur le plan économique, l'UNEDIC s'inquiète de la fin des aides d'État.
Il prévoit un trou de 10 milliards d'euros dans les caisses de l'assurance chômage cette année. L'organisme anticipe la destruction de 230 000 emplois liés en partie à la fin prévisible des aides de l'État.
Europe 1, 19h04, c'est du jamais vu en matière de fuite de données médicales. Les informations de près de 500 000 patients sont pratiquement en consultation libre sur Internet.
Oui, à l'origine de la fuite, des laboratoires d'analyse français, les patients sont venus pour passer une série d'examens et les informations, censées rester confidentielles, se retrouvent aujourd'hui dans la nature, plus précisément sur Internet, Justin Morin.
Oui, à condition de chercher un peu, fort heureusement, ces fichiers restent encore cloisonnés à des forums spécialisés sur le piratage informatique, mais ils sont bien rendus publics. Alors on ne parle pas de n'importe quelle information. Sur ce listing, pour chacun des centaines de milliers de patients, on retrouve l'âge, l'adresse, le numéro de téléphone, mais aussi le numéro de sécurité sociale, le groupe sanguin, d'éventuelles pathologies ou traitements suivis par la personne, des informations vouées au secret médical qui servent pourtant de marchandise entre pirates informatiques. Ces données sont effectivement très recherchées par les cybercriminels parce qu'elles permettent de lancer des escroqueries massives comme des campagnes d'hameçonnage par mail par exemple. Plus ils ont d'informations à leur disposition concernant leur cible, plus ils paraissent crédibles aux yeux de leurs victimes. D'après Damien Bancal, un spécialiste du sujet qui a découvert cette fuite, ces fichiers devaient être au cœur d'une négociation commerciale entre pirates, négociation qui a mal tourné. Le fichier a ainsi été rendu public pour qu'il perde toute sa valeur. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information affirme avoir alerté le ministère de la Santé sur cette fuite il y a 4 mois. Contacté, le ministère n'a pas encore réagi à nos sollicitations.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1 à Marseille. Eh bien, c'était l'heure du procès pour 14 supporters de l'OM accusés d'avoir mis à sac la commanderie, le centre d'entraînement du club.
Et le procureur Stéphane Frangier a requis 13 peines de prison avec sursis.
Oui, une seule peine de 4 mois de prison ferme et 8 mois de prison avec sursis pour tous les autres, requis donc par le parquet. À noter également du côté des parties civiles, l'avocat de l'Olympique de Marseille qui demande 140 000 euros de dommages et intérêts, soit 10 000 euros par tête. Les avocats de la défense qui finissent de s'exprimer. L'un d'eux lance sans détour en regardant les prévenus. J'ai l'impression de voir une photo de classe qui me fait penser plutôt à une photo d'imbécile qu'à une photo de voyou. La notion de groupe, la préparation, rien, aucune preuve n'est établie selon la défense, persuadée que les gros poissons sont toujours en liberté, demande donc la relaxe. Un seul prévenu a reconnu finalement des dégradations sur un véhicule de police banalisé. Tous les autres nient toute violence et justifient leur présence à une simple manifestation de mécontentement envers la direction de l'OM. Le délibéré pourrait être rendu dans la soirée.
Stéphane Frangy en direct de Marseille.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1 avec ce verdict historique en Allemagne.
Et puis un Van Gogh bientôt aux enchères à Paris.
19h08, c'est la suite de votre journal, du journal de Christophe Lamarre sur Europe 1. Et en Allemagne, c'est un verdict historique. Hein, un ex-agent syrien condamné à 4 ans et demi de prison ferme pour complicité de crimes contre l'humanité.
Et c'est la première fois que le régime syrien de Bachar el-Assad est reconnu coupable d'un tel chef d'accusation. Hélène Kohl, au-delà de la personnalité de cet ancien agent, c'est bien le dictateur syrien qui était visé, non ?
Oui, le nom de Bachar el-Assad a été cité au moins 5 fois dans l'énoncé du verdict ce matin à Koblenz et la présidente de la Cour s'est autorisée un commentaire personnel en assurant aux parties civiles qu'elle n'oubliera jamais ce qu'elle a appris lors de ce procès. Très concrètement, c'était le procès de la répression de quelques manifestations en 2011. L'accusé, qui avait un grade assez subalterne, était jugé pour avoir participé à l'arrestation et au transfert d'opposants vers un centre de détention où il savait qu'ils allaient être torturés. Mais en réalité, c'est cette question de la torture qui a été au cœur de ce procès historique, au cours duquel on a montré et analysé pour la première fois les photos du dossier César. Il s'agit d'un fichier avec des milliers de clichés de détenus syriens morts, portant sur leur corps les traces d'exactions terribles. Et ces photos sont désormais officiellement considérées comme des preuves matérielles contre le régime de Damas dans ses procès contre crimes contre l'humanité. L'accusé va faire appel, selon ses avocats, mais c'est un premier pas, disent les Syriens en exil. Ils espèrent que des procédures similaires vont se multiplier grâce au principe de compétence universelle qui permet de poursuivre les auteurs de crimes contre l'humanité partout dans le monde, quelle que soit leur nationalité et l'endroit où le crime a été commis.
Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin, un procès pour l'histoire. Et puis un événement peut-être historique là aussi, il sera à Paris chez Sotheby's le 25 mars. On parle de la vente aux enchères d'un tableau de Van Gogh.
Scène de rue à Montmartre, vous ne connaissez pas, moi non plus. Et pourtant c'est le nom de cette toile hein, signée du peintre hollandais. Et c'est la première fois que ce tableau se retrouve sur le marché de l'art. Fait très rare, c'est une œuvre qui est dans la même famille depuis 100 ans, Diane Chénoudin.
Oui, absolument. Une famille de collectionneurs à Paris. C'est le grand-père qui avait acheté ce Van Gogh dans les années 20 et la toile n'a pas quitté son bureau depuis. Ses héritiers vendent donc aujourd'hui ce tableau de la série de Montmartre, une période très recherchée par les amateurs de Van Gogh, comme l'explique Aurélie Van de Voorde. Elle dirige le département d'art impressionniste et moderne chez Sotheby's France.
C'est une série de tableaux que Van Gogh a peint lorsqu'il s'installe à Paris, entre 86 et 87. Et il s'installe avec son frère Théo sur la butte Montmartre, rue Le Pic. Et là, il va notamment faire plusieurs tableaux qui représentent les moulins de Montmartre et qui lui évoquent évidemment les moulins néerlandais de son enfance. Ce tableau est rare parce qu'aujourd'hui, quasiment tous les tableaux qui représentent le Moulin de la Galette sont dans des grands musées internationaux et il est très très rare d'en trouver encore en main privée. C'est un tableau qui est depuis près de 100 ans dans la même famille française et qui n'a donc jamais exposé le tableau. Donc depuis un siècle, personne n'a vu ce tableau.
Et on reconnaît la patte de Van Gogh avec ses couleurs, un tableau déjà très lumineux. La toile, estimée entre 5 et 8 millions d'euros, sera pour la première fois exposée au public à Paris à la mi-mars, après Amsterdam et Hong Kong.
Et vous irez la voir, j'en suis sûre.
Ah, mais je l'ai déjà vue.
Ah, vous l'avez déjà
vue.
Mais
oui, chanceuse. J'en reviens, absolument. Elle est très belle, très belle.
Diane Chénouda du service culture d'Europe 1. Le football, Nîmes-Lorient ce soir, le match a commencé il y a quelques minutes, toujours 0-0. C'est un match en retard de la 21e journée de Ligue 1. Et puis la suite et la fin des 8e de finale aller de la Ligue des Champions, Atalanta-Bergame, Real Madrid et Borussia Mönchengladbach, Manchester City. Coup d'envoi de ces deux rencontres à 21h.
Et puis les amateurs de rugby sont rassurés. France-Écosse aura bien lieu dimanche.
Eh bien oui, c'est la décision du comité d'organisation du tournoi. La destination, l'équipe de France dans sa version remaniée qui a repris l'entraînement collectif. Aucun nouveau cas de Covid n'a été enregistré ces dernières 24 heures.
C'était le journal de Christophe Lamarre. On vous dit à demain, Christophe.
À demain.
La météo, Anissa, du beau temps donc demain, presque pour tout le monde.
Oui, le soleil va rester quand même très présent demain sur l'ensemble du pays, même si nous avons une perturbation, une petite perturbation qui essaye de rentrer sur la France par le nord-ouest. Mais cette perturbation, elle est beaucoup moins forte que l'anticyclone. Du coup, il nous protège. Et nous aurons uniquement sur la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France des nuages et des petites pluies fines demain. C'est une perturbation donc peu active. Et puis sur le sud, sur le golfe du Lion, là nous avons un ciel légèrement voilé demain matin qui cachera le soleil. Plus nuageux dans l'après-midi pardon, sur le Languedoc-Roussillon. Et puis entre le nord-ouest et le golfe du Lion, bah partout ailleurs, c'est le soleil qui brille encore et qui domine. C'est sur la façade est demain, de la Bourgogne à la Provence, c'est là qu'il fera le plus beau. Profitez-en si vous nous écoutez dans l'est. Nous aurons 2 à 10 degrés le matin et 11 à 20 degrés demain après-midi. 11 à Saint-Brieuc, 15 à Rouen, 17 à Paris et 19 pour Clermont-Ferrand.
Merci beaucoup Anissa, on vous souhaite une excellente
bonne soirée.
19h13 sur Europe 1. Dans un instant, un destin, un pays, Aung San Suu Kyi, la Birmanie. Mais d'abord, la carte blanche du jour.
Europe Soir, Isabelle Millet.
Je vous demande de vous arrêter.
Et je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes un peu.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Et ce soir, c'est Dominique Méda qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Dominique.
Bonsoir.
C'est une première, on est ravis de vous accueillir sur Europe 1.
Alors, mais moi également.
Vous êtes directrice du laboratoire de sciences sociales de l'Université Paris-Dauphine et votre carte blanche concerne le revenu universel. Alors on en parle pas mal ces derniers temps, sans qu'on comprenne toujours très bien de quoi il s'agit. Alors faut-il mettre en place un revenu universel? Je vous pose la question.
Je dirais oui, mais pas à n'importe quelle condition. En fait, il faut choisir parmi toutes les versions qui existent, celle qui est la plus praticable. Mais d'abord, je voudrais rappeler pourquoi c'est nécessaire et pourquoi même c'est absolument urgent. La raison principale, c'est que il y a un grand nombre de personnes aujourd'hui qui sont dans une situation catastrophique en raison de la crise sanitaire, qui sont sans revenus ou avec des revenus trop faibles pour vivre. Et on pourrait dire qu'il existe des trous dans la raquette des aides gouvernementales. Et les jeunes sont les premières victimes de cette crise, notamment bien sûr parce qu'ils n'ont pas accès au RSA.
Et alors en quoi le revenu universel changerait-il les choses ?
Ben en fait parce qu'il serait donné à tout le monde. Donc il constituerait une bouée de sauvetage en quelque sorte pour tous ceux que la crise a privé des moyens de vivre, donc y compris les jeunes. En fait, si on veut résumer, il permettrait d'éviter à tous ceux qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois d'être stigmatisés, hein, c'est-à-dire montrés du doigt parce qu'ils ont besoin de demander l'aide de la société. Bon, ce revenu universel, il aurait aussi pour avantage d'éviter les situations qui sont très nombreuses, hein, de non-recours, c'est-à-dire le fait que des individus qui ont droit à des aides ne vont pas les chercher parce qu'ils ne sont pas informés, parce qu'ils ont honte ou parce qu'ils ont peur des démarches trop compliquées. Et puis enfin, ce revenu, il permettrait de renforcer le pouvoir de négociation des travailleurs qui ne seraient plus obligés d'accepter n'importe quel emploi. Donc beaucoup, beaucoup d'avantages.
Alors effectivement, qu'attend-on pour le mettre en place, hein, j'ai envie de vous demander.
Il y a des désaccords, hein, sur les contours de ce revenu universel. Il y a plusieurs versions qui sont en lice et qui sont très différentes. Par exemple, l'une d'entre elles considère que le versement du revenu universel, c'est en quelque sorte un solde de tout compte. C'est-à-dire qu'une fois ce revenu distribué, on pourrait se permettre de supprimer certains volets de la protection sociale, mais aussi, par exemple, les règles qui existent sur le marché du travail. Je pense au SMIC, par exemple. L'idée, c'est que, une fois que la société a assuré aux individus un filet de sécurité, ces individus n'ont plus besoin d'autres dispositifs collectifs. Bon, évidemment, c'est très risqué, hein. Une autre version, elle consisterait à faire financer ce revenu par les catégories les plus riches de la société, au risque de faire peser sur elles une très forte pression fiscale, hein. Alors, il y a une dizaine d'années, toutes ces versions ont connu un regain de popularité, hein, notamment quand on a publié des études qui annonçaient avec fracas qu'on allait automatiser une grande partie des emplois, donc ils allaient disparaître. Et donc, il y avait l'idée qu'il fallait trouver une autre source de revenus que l'emploi et que l'automatisation allait nous permettre de nous passer du travail. Bon, on n'y est pas et c'est sans doute pas souhaitable. Il y a une question essentielle, hein, quand même autour du revenu universel qui concerne le montant de ce revenu. Alors, individuellement, on pense qu'il serait... Enfin, les propositions vont de 400 à 1000 euros par personne, donc ça fait des sommes énormes, hein. Si on raisonne, ça peut faire autour de 300 milliards, vous voyez, des choses extraordinaires, quoi. Alors, bien sûr, une partie de ces sommes, elles seraient récupérées par l'impôt, mais c'est vrai qu'il serait paradoxal et finalement techniquement complexe de verser ces sommes à tout le monde pour les récupérer peu de temps après par l'impôt.
Donc, c'est une réforme impossible ?
Eh bien non, non, parce qu'il y a en fait une troisième version qui me paraît très intéressante et très, je dirais, très émancipatrice. C'est celle qui est proposée par un économiste qui s'appelle Pierre-Alain Muet, qui a écrit un livre qui s'appelle « Pour un impôt juste ». Et cette solution, elle consiste à verser automatiquement à toute personne autonome fiscalement, donc bien sûr ça peut être dès 18 ans, hein, un revenu de base autour du montant du RSA, c'est-à-dire 560 euros, hein, qui sera conservé par tous ceux dont les revenus d'activité sont nuls ou faibles, mais qui sera absorbé par l'impôt sur le revenu à mesure que les revenus d'activité augmentent. Donc ça veut dire que ce qu'on versera, c'est seulement le solde entre l'impôt qui est dû et le revenu universel. Et ça, c'est une solution qui rend l'ensemble du système fiscal plus juste et qui corrige finalement les lacunes de notre protection sociale.
Alors pourquoi cette proposition n'a-t-elle pas encore été adoptée ?
C'est une très très grosse réforme, c'est une très grosse réforme fiscale. On pourrait dire que la première étape, ça pourrait être le versement automatique du RSA, y compris aux jeunes dès 18 ans, hein. Il y a plusieurs associations qui le demandent, étant donné la situation actuelle. Et d'ailleurs, le PS a porté à l'Assemblée une proposition de loi qui proposait cela et qui a été rejetée, hein, par la majorité au motif que le RSA découragerait les jeunes de travailler. Mais sur ce sujet, et peut-être pour conclure, hein, je me permets de rappeler ce que dit Esther Duflo, notre star nationale, notre prix Nobel d'économie, hein. Elle dit qu'aucune étude n'a jamais montré que les minima sociaux désincitaient au travail.
Bien, eh bien, merci beaucoup en tout cas. C'était la carte blanche ce soir de Dominique Méda. Merci à vous Dominique.
Merci beaucoup.
Et
merci.
À très bientôt. Merci.
Europe 1. Isabelle Millet.
19h19, dans un instant sur Europe 1, votre club des idées consacré à une icône planétaire déchue. On vous racontera l'histoire de l'un des plus beaux pays d'Asie à travers le destin d'une femme, Aung San Suu Kyi, qui par moments a fait preuve de beaucoup de courage, mais qui ensuite en a cruellement manqué. À tout de suite. 19h21, on ouvre ce soir votre débat du Club des idées sur Europe 1 et on a choisi aujourd'hui de vous parler d'une femme, une femme qui est au cœur de l'actualité ces derniers jours, Aung San Suu Kyi. Alors on vous parle beaucoup de la Birmanie en ce moment parce que ce qu'il s'y passe est grave, il y a eu un coup d'État et depuis une répression sévère, on aura l'occasion d'en parler évidemment. Au cœur de ces événements, il y a donc cette femme, au visage angélique, qui fut prix Nobel de la paix en 91, qui a passé 15 ans en résidence surveillée, qui est finalement arrivée au pouvoir porteuse d'un immense espoir. Comparée à Nelson Mandela, à Gandhi ou à Martin Luther King, les Birmans comme la communauté internationale l'adulaient. Luc Besson a même tiré un biopic de son histoire, le film « The Lady ». Sauf que depuis les choses ont changé et c'est cette histoire qu'on va vous raconter ce soir avec mes invités. Frédéric Debomy qui a écrit plusieurs ouvrages sur la Birmanie, qui a rencontré également Aung San Suu Kyi. Bonsoir.
Bonsoir.
Sophie Boisseau-Durocher, vous êtes également avec nous, vous êtes chercheuse spécialiste de la Birmanie. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Didier François, en studio à mes côtés, spécialiste évidemment des questions internationales à Europe 1. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
D'abord, est-ce qu'on pourrait se mettre tous d'accord, si vous le voulez bien, sur la prononciation Aung San Suu Kyi, c'est ça?
Voilà.
Bon, très bien. Alors, pour bien comprendre qui est Aung San Suu Kyi, il faut remonter à son enfance. Elle est la fille d'un général qui a été assassiné en 1947, alors qu'elle n'avait que 2 ans. Son père, c'était un héros de l'indépendance, hein, Frédéric Debomy.
Oui, en fait, pour comprendre le parcours d'Aung San Suu Kyi, effectivement, c'est important de rappeler qui est son père. La Birmanie était une colonie britannique et il y a eu un mouvement d'indépendance avec les 30 camarades, dont Aung San. Et c'est Aung San qui a mené cette lutte et c'est lui qui a signé avec le premier ministre britannique Clement Attlee à l'époque les accords qui allaient mener à l'indépendance. Et Aung San a donc été aux affaires en Birmanie dans une période de transition en 46-47 avant d'être assassiné par un rival politique dans des circonstances qui n'ont jamais été complètement élucidées. Et une chose importante qu'avait faite Aung San, c'était la conférence de Panglong, c'est-à-dire réunir autour d'un projet d'État fédéral le groupe birman ou bamar majoritaire dont il était un représentant et en fait des groupes des minorités. En Birmanie, il y a un tiers de la population qui n'est pas birmane bamar, donc c'est important, ce sont les Shan, les Karen, les Chin, les Kachin, etc., des groupes plus ou moins importants. Et donc, la conférence de Panglong, c'était une volonté de se mettre autour de la table et de préparer ensemble ce qu'allait être le futur État birman. Alors, toutes les minorités n'y étaient pas, les Karen n'y étaient qu'à titre d'observateurs, les Chin, les Shan et les Kachin, eux, participaient. C'était en tout cas un premier pas tout à fait important, et ça reste un acte fondateur, si vous voulez, et qui explique le parcours ultérieur d'Aung San Suu Kyi, qui, dès son entrée en politique par un discours resté célèbre le 26 août 1988, a mis cette question oui. de la coexistence du groupe majoritaire et des minorités sur la table. Et ça reste en fait la question centrale en Birmanie.
Et on va y revenir, bien sûr. Alors il y a son papa qui a été assassiné quand elle avait 2 ans, et puis il y a sa maman qui était elle aussi une femme engagée, qui est devenue ambassadrice de la Birmanie en Inde. C'est là d'ailleurs qu'Aung San Suu Kyi va poursuivre ses études secondaires à New Delhi, avant de partir en Angleterre pour étudier les sciences politiques et la philo. Et là, bah, pendant quelques années, Sophie Boisseau-Durocher, elle va mener finalement une vie de femme tout à fait normale, de femme au foyer, mariée à un universitaire.
Alors, elle est partie en Angleterre effectivement à 18 ans, après avoir obtenu son baccalauréat à Delhi, où sa mère, comme vous venez de le dire, était ambassadrice. Et puis elle part à Oxford. Alors c'est quand même un point important, parce qu'avant de se marier, elle a donc étudié dans cette université prestigieuse. Et je dirais que cette université prestigieuse
à Oxford,
lui a donné... Oui, à renforcer son complexe de supériorité. Elle est d'une part la fille du héros national et d'autre part, elle étudie dans un des temples du savoir universel. Et donc, il y a là, si vous voulez, elle cultive une sorte d'élitisme très sophistiqué et assez intériorisé. Et puis, elle va rencontrer effectivement son mari à Oxford, qui lui étudie les civilisations tibétaines et avant de l'épouser, elle va partir passer 2 ans à New York où elle va travailler aux Nations Unies. Voilà, et puis elle va épouser Michael Harris.
Elle va avoir deux enfants, oui.
Voilà, 2 fils, Alexander et Kim. Et puis, elle va partager sa vie pendant un moment entre l'Angleterre et le Bhoutan, son mari étant conseiller de la famille royale du Bhoutan. Donc voilà, donc elle a une vie qui est assez particulière, où elle côtoie des gens très intelligents, très sophistiqués, qui cultivent un savoir très, très précis. Et donc, si vous voulez, elle accorde énormément d'importance à toutes les questions d'éducation et d'intelligence.
Et tout ça va nous aider effectivement à mieux comprendre la suite de son parcours. On va se retrouver dans un tout petit instant. On va voir pourquoi son destin a basculé à Aung San Suu Kyi en 1988 lorsqu'elle revient en Birmanie au chevet de sa maman. À tout de suite. 19h29, on poursuit notre débat du Club des idées d'Europe 1 consacré ce soir à la Birmanie et surtout à la figure controversée d'Aung San Suu Kyi qui va nous permettre de comprendre beaucoup de choses sur ce pays dans lequel il se passe des événements graves en ce moment. On vous en parle régulièrement sur Europe 1. À mes côtés, Didier François, spécialiste des questions internationales à Europe 1. Frédéric de Baumy est également en ligne avec nous. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la Birmanie. Il a même rencontré Aung San Suu Kyi. Il nous racontera quand et comment. Et puis Sophie de Boisseau-du-Rocher qui est chercheuse spécialiste de la Birmanie. Alors on a commencé à évoquer l'enfance et l'adolescence d'Aung San Suu Kyi, dont le destin, je le disais avant qu'on se quitte pour quelques instants, dont le destin a basculé. Didier François, c'était en 1988 lorsqu'elle revient en Birmanie pour se rendre au chevet de sa mère. Et là, elle surprend tout le monde parce qu'elle décide de s'impliquer, ça y est, dans le destin de son pays. On est en pleine révolte contre la junte.
Oui, alors c'est une des différentes juntes, une différente révolte. Oui. Effectivement, Aung San Suu Kyi décide de rentrer en politique en fondant son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, avec d'ailleurs deux anciens généraux, qui est un parti qu'on compare souvent au parti de Gandhi, donc très pacifiste, etc. Mais elle se fait évidemment arrêter très rapidement par les militaires dès 89, et à partir de ce moment-là, elle va commencer à faire de très longs séjours entre résidences surveillées, un peu de prison, des sorties très courtes. En fait, grosso modo, sur plus de 20 ans, elle va passer 15 ans en résidence surveillée. Et donc, cette figure, c'est comme ça que se crée aussi, parce qu'elle a... On l'a vu d'abord, elle a ce passé qui lui donne cette stature avec ses parents qui sont des figures de la Birmanie. Elle a une vie aussi personnelle qui est assez dramatique, justement, puisqu'à partir du moment où elle commence à se faire arrêter, elle n'a plus le droit de sortir du pays, son époux et ses enfants qui vivent à Londres, son époux a le cancer, elle ne peut pas aller le voir.
Oui, là, vous allez un peu vite, Didier, parce que d'abord, elle est confrontée à un dilemme déchirant. Soit elle quitte la Birmanie en femme libre, mais elle n'a plus le droit d'y mettre les pieds, soit elle reste, mais elle est enfermée, ça veut dire seule, loin de son mari, loin de ses fils, et à ce moment-là, elle choisit de rester, ça veut dire qu'à ce moment-là, elle fait vraiment un choix extrêmement fort, son combat est plus fort que tout.
Ouais. Oui, c'est d'ailleurs, ça culmine avec ce prix Nobel de la paix en 1991, où effectivement, on a une militante politique qui prend ses responsabilités et qui devient une figure. Alors peut-être qu'après, en Occident, on a vu peut-être que cette partie-là, et on a peut-être après justement oublié.
Oui, on va y revenir sur effectivement cette image controversée. Mais pour l'instant, restons encore sur cette période de sa vie. Pardon, Didier François, vous voulez aller très vite, mais moi, je veux qu'on comprenne bien qui est cette femme et que ça nous amène un petit peu à mieux comprendre l'histoire de ce pays. Frédéric de Baumy, Didier François le disait, 15 longues années d'assignation à résidence, elle va rester dans cette maison et c'est là qu'elle commence pour les Birmans à devenir une icône.
Oh, c'est pas là qu'elle commence,
un peu avant
parce
même,
que ça a été presque immédiat. En fait, en 1988, on est allé en fait la chercher. Et elle a répondu à cet appel. Au départ, les manifestants, d'ailleurs, s'étaient adressés à son frère, qui était aussi donc un enfant d'Aung San. Le frère n'était pas intéressé, et donc ils ont trouvé la sœur. Et en fait, le discours du 26 août 88, auquel je faisais allusion tout à l'heure, a été vu par un nombre impressionnant de personnes, et elle est devenue immédiatement la figure de référence d'un mouvement qui la dépasse. Je voudrais le dire aussi, Aung San Suu Kyi a été assignée à résidence pendant de longues années. Elle a toujours souligné aussi qu'elle n'avait pas été la seule à être privée de liberté et qu'elle a vu des conditions plutôt meilleures que nombre d'autres personnes engagées pour le mouvement pour la démocratie qui, eux, ont connu les prisons birmanes, des tortures extrêmement cruelles. Donc, c'est quelque chose qu'elle-même souligne toujours.
Et donc en 1991, elle reçoit le prix Nobel de la paix, on l'évoquait, c'est son fils aîné qui va le récupérer, un prix Nobel qui met en lumière cette fois sa lutte aux yeux du monde, Sophie Boisseau-du-Rocher.
Oui, alors avant de parler du prix Nobel, moi j'aimerais revenir justement sur cette période 88-90, parce que c'est, comme vous l'avez dit, une période très dense sur le plan politique en Birmanie. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir le basculement personnel d'Aung San Suu Kyi. Ce qui est intéressant, c'est que elle s'est levée pour sauver son pays, comme son père l'avait fait 45 ans plus tôt. Et lors de son mariage, elle avait demandé à son mari une totale liberté si son pays avait besoin d'elle. Et cette totale liberté, il lui a accordé. Et c'était donc, si vous voulez, un espèce de sacrifice personnel et conjugal pour se consacrer à achever l'œuvre de son père. Ce qui est intéressant, c'est que quand elle fait ce grand discours en août 88 à la pagode Shwedagon, elle rentre, je dirais, symboliquement en religion, c'est-à-dire en politique. Et ce n'est pas par hasard que ce discours a lieu dans un des plus hauts lieux religieux de la Birmanie. C'est un point très important. Il ne faut pas oublier que c'est une Bamar, elle est donc bouddhiste, et ce qu'elle dit le jour du discours, c'est deux choses. D'une part, libérer le peuple de la dictature, ça c'est clair, c'est le message politique, mais libérez-vous de la peur. Et ça, c'est vraiment le message religieux, cette espèce de basculement irréversible, je n'ai pas peur et donc j'entre en politique. Ce qui représente, si vous voulez, pour le peuple, un énorme espoir. Alors, à partir de là, la junte est quand même obligée de composer. Néouin, le général qui est au pouvoir depuis 25 ans, va démissionner et il va y avoir l'organisation d'élections. Pour ces élections, les partis politiques vont pouvoir se former, d'où la création effectivement de la Ligue nationale pour la démocratie. Là où vous êtes allé un peu vite, c'est qu'en 1990, il y a des élections en Birmanie.
Remportées justement sont... par son parti, dont la junte refuse de reconnaître les élections. Ouais. Et donc elle assiste
exactement
à ça à distance.
Exactement dans la même situation qu'en novembre dernier. Donc, parce que la LND, la Ligue nationale pour la démocratie, a gagné plus de 80% des suffrages déjà en 90. Et les militaires sont absolument furieux et donc déclarent qu'il y aura un coup d'État en 90. Et là, on rentre donc dans cette période d'assignation à résidence ou d'emprisonnement. Ce qui est intéressant, c'est de voir également qu'en dépit de son allure très frêle, féminine, délicate, Aung San Suu Kyi est qualifiée de papillon d'acier. Elle a une force intérieure qu'elle tire du bouddhisme qui est impressionnante. Et pendant toutes ces années d'assignation à résidence, elle va énormément méditer, au-delà de travailler sur son programme politique, pour précisément être forte intérieurement et se libérer de la peur.
Une force intérieure dont elle a dû avoir sacrément besoin quand elle a appris que son mari était malade, atteint d'un cancer. Il va décéder sans qu'elle puisse lui dire au revoir. Et d'ailleurs, c'est peut-être anecdotique, mais quand même, cette histoire d'amour, elle a été adaptée au cinéma dans le film The Lady de Luc Besson.
Ce matin, l'armée a ouvert le feu sur les étudiants près de l'hôpital central, faisant de nombreuses victimes.
Madame, nous sommes convaincus que vous seule avez la capacité de faire de la Birmanie un État démocratique.
Nous devons mettre de côté nos divergences. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être unis. Et ensemble, nous marcherons vers une destinée meilleure.
Évidemment, ce film, il est très romancé dans la caméra de Luc Besson, mais il faut dire aussi que l'histoire d'Aung San Suu Kyi, elle est très romanesque. Hein, Frédéric de Bomy.
Je crois...
Sophie Boisseau-Durocher, oui, allez-y.
Oui, alors, simplement, un point, c'est que son mari, son histoire d'amour avec Michael Harris est très romanesque. Malheureusement, je crois qu'il y a une grande faiblesse et une grande faille dans la vie d'Aung San Suu Kyi, c'est que, comme elle est partie en Birmanie en 88, ses enfants étaient très jeunes et elle ne les a pas élevés. Et peut-être qu'un de ses plus grands échecs, c'est de voir qu'aujourd'hui, ses enfants sont incapables de reprendre le flambeau politique. Et là, je crois que c'est une souffrance absolument colossale. Un de mes amis m'a dit avoir assisté à sa remise de prix Nobel quand elle a pu le récupérer et qu'elle avait eu un regard quasiment désespéré en voyant ses deux fils un peu seuls, un peu gênés sur les premiers rangs du théâtre où elle a reçu ce prix Nobel.
Elle aurait rêvé qu'il soit aussi... ses héritiers, oui.
Voilà. Donc voilà, et on peut repartir maintenant peut-être sur effectivement ce prix, le prix Sakharov, hein, qui lui a été remis avant le prix Nobel, 90-91, une énorme charge qui pèse sur ses épaules. Le niveau d'attente devient énorme. Ça a un impact positif parce que les militaires se savent observer, mais ça a aussi un impact négatif, c'est que les pays occidentaux réalisent que les militaires s'en moquent beaucoup de cet Occident et que donc ils maintiennent leur oppression sur l'opposition et Aung San Suu Kyi.
Oui, en 2007, il y aura la révolution de Safran, hein, Didier François, avec pour la première fois des moines, des bonzes qui descendent dans la rue. Ça, c'était une image tout à fait inédite, hein,
oui, alors,
aux côtés de la population.
Pardon ?
Aux côtés de la population.
Oui, tout à fait. Ça a été, ça a été le mouvement qui a été le plus vu à l'extérieur. Ça a permis, c'est vrai que ces images de moines en tenue de bonzes dans les rues, et surtout la répression décidé par les militaires a fait basculer l'opinion publique internationale. Et donc oui, ça a été le mouvement qui a permis, qui a déclenché le fait que l'armée finalement soit obligée un peu de lâcher du lest et organise cette nouvelle constitution qui à la fois lui permettait de garder le pouvoir en gardant une partie des députés qui étaient 25% des députés à l'Assemblée nationale et en gardant aussi un certain nombre d'enjeux au gouvernement, mais aussi en lâchant un peu de lest et ouvrant cette expérience de démocratisation qui avait commencé donc à partir de ce moment-là.
Alors, pendant cette révolution de Safran, elle est toujours sous résidence surveillée. Elle est finalement libérée en 2010. On se souvient de ces images, ces milliers de partisans en liesse, son sourire, les fleurs de frangipanier dans les cheveux. Pourquoi cette libération à ce moment-là, Frédéric de Baumy ?
Je voudrais revenir sur deux choses, si vous le permettez, juste avant, sur des parallèles à faire, en fait. On a parlé de la mobilisation de 1988, on a parlé de la mobilisation de 2007. Sophie Boisseau-Durocher faisait un parallèle entre 1988 et aujourd'hui par rapport aux élections. Il y en a un à faire, effectivement, c'est que les militaires, dans les deux cas, n'ont rien vu venir. Ils n'ont pas vu venir le résultat des élections. Et s'ils ne l'ont pas vu venir, s'ils n'ont pas vu venir qu'ils allaient perdre les élections, c'est parce qu'ils ont dans la tête l'idée qu'ils sont les garants de l'unité et de la sécurité du pays, et que du coup, il serait logique que les gens votent pour eux. Or, à chaque fois qu'il y a eu des élections libres et transparentes, ils ont perdu dans les grandes largeurs, ils ont perdu en 1988, ils ont perdu aujourd'hui, ils ne l'ont pas vu venir. Donc ça, c'est un premier parallèle. L'autre parallèle que je voulais faire, c'est entre 2007, la révolution Safran et sa répression, et aujourd'hui. En 2007, il y a eu des manifestations, il y a eu une répression. La répression de 2007 n'a pas été aussi sanglante que celle de 1988. Il y a eu des morts, il y a eu une trentaine de morts au moins. Mais ça n'a pas été aussi sanglant parce qu'il y avait la tension internationale. Et dans ce cadre-là, les militaires étaient occupés à traquer les journalistes locaux et internationaux pour empêcher les images de sortir. Ils essayaient aussi, en fait, de faire des arrestations la nuit. Il y avait des raids dans les monastères, puisque les moines, effectivement, étaient à la tête du mouvement. Aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a cette attention internationale, il y a une tentative de maîtriser Internet, il y a une tentative d'arrêter les gens la nuit, et ça se produit. Il y a eu de nombreuses arrestations. Il y a eu aussi des arrestations déjouées ces dernières semaines par les citoyens, par une pratique de vigilance nocturne partagée, qui a pu parfois freiner les arrestations, qui hélas ne les a pas tout empêchées. C'est pour dire que le maintien de l'attention sur ce qui se passe aujourd'hui est une protection certes pas absolue, mais le maintien de l'attention internationale protège dans une certaine mesure les manifestants aujourd'hui.
Alors vous nous amenez, 2010, vous nous amenez très rapidement effectivement sur ce qui se passe aujourd'hui. On va y venir bien sûr parce que c'est très intéressant et c'est pour ça aussi qu'on a organisé ce débat. Donc elle est libérée, elle a enfin le droit à cette liberté qu'elle n'a pas eue pendant 15 ans. En 2015, il y a des élections législatives, je vais avancer un petit peu, qui marquent sa victoire et celle de son parti, mais qui marquent aussi le début d'une scission en Birmanie. La communauté musulmane est exclue des investitures, hein. Didier François.
Oui, tout à fait.
Alors, vas-y.
Frédéric de Maumy, allez-y.
Non, mais alors, en fait, quand Aung San Suu Kyi arrive aux affaires, il y a les élections de 2015. Au début 2016, elle peut être chef de gouvernement, de facto, pas par son titre, mais de facto, elle est chef de gouvernement. Or, il y a un climat islamophobe à partir de 2012 qui est très prononcé en Birmanie et très encouragé par des bonzes extrémistes, dont le fameux Wiratu, qui sont vraiment des bonzes incendiaires. Et elle arrive dans ce climat-là. Elle sait que l'islamophobie de l'armée est nette, que la xénophobie de la population est hélas également largement partagée. Et donc, pour garder sa popularité, elle décide de ne pas confronter ou de ne pas confronter immédiatement cette question-là. Et donc, en gros, elle va se taire par rapport aux extrémistes bouddhistes pendant un temps. Et elle va faire un peu profil bas sur cette question. Sachant que parmi ses conseillers les plus proches, il y a à ce moment-là un avocat musulman, Kony, qui certainement comprend la stratégie, puisqu'il ne la quitte pas, il continue à travailler avec elle, dans l'objectif, qui est l'objectif de Aung San Suu Kyi, qui est l'objectif de Kony, c'est la réforme de cette constitution de 2008, voulu par les militaires, qui fait que, par exemple, Aung San Suu Kyi est chef de gouvernement, mais elle n'a pas la main sur les ministères clés qui sont l'intérieur, la défense, les frontières.
Je voudrais qu'on avance un tout petit peu, si vous le voulez bien, Frédéric de Baumy, même si c'est passionnant, mais sinon on ne va pas arriver à la fin de ce débat. Petit à petit, le monde découvre que sous ce visage angélique que vous évoquiez, se cache aussi une certaine lâcheté, parce qu'on apprend qu'elle a fermé les yeux sur les massacres perpétrés par l'armée birmane contre les Rohingyas, cette minorité musulmane, justement, Didier François.
Alors, je ne suis pas sûr que ce soit de la lâcheté. En tout cas, moi, je ne suis pas dans la tête d'Aung San Suu Kyi et je serais incapable de répondre. Peut-être que nos deux invités pourraient. En revanche, si on regarde les faits, on voit que, effectivement, l'armée birmane commence des premières opérations contre les Rohingyas en 2012. Elle reste non seulement silencieuse, mais en 2013, l'année d'après, c'est la première fois qu'elle participe à un défilé militaire aux côtés des généraux. Et elle gagne les élections de 2015. Et on a la même chose en 2017. C'est-à-dire que là aussi, elle se tait. Plus encore, elle ne défend pas les Rohingyas, mais elle accuse la communauté internationale d'être vraiment humiliée de parti pris, et elle va ensuite à la Cour internationale de justice pour défendre les militaires. Donc il y a quand même, je ne peux pas me mettre à la place de ces calculs, mais on voit bien que si on regarde les faits, à chaque fois, en tout cas, elle bascule du côté du choix. De ne pas attaquer de face la question de l'islamophobie ou en tout cas de la lutte contre les Rohingyas déclenchée par l'armée, ce que d'ailleurs la communauté internationale les accuse de génocide, de nettoyage ethnique, et elle défend malgré tout à la fois son pays, son gouvernement et les militaires.
Vous voulez réagir, Sophie Boisseau du Rocher, je pense.
Oui, alors je voudrais réagir parce que je crois qu'on fait vraiment l'erreur de parler systématiquement des Rohingyas et de la question des Rohingyas au Myanmar sans l'intégrer dans le contexte national. Et donc, si vous voulez, on arrive à des malentendus qui sont quand même très graves. Il faut bien comprendre que les Rohingyas, c'est d'abord un problème hérité de la colonisation britannique. C'est le premier point, c'est une patate chaude, je dirais, que les Britanniques ont laissé sur place. Aucun gouvernement n'a véritablement traité cette question et en 1982, la loi sur la citoyenneté les a rendus apatrides. Personne s'en est occupé jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'Aung San Suu Kyi. On a dit elle a créé ce poste de conseillère d'État en mars 2016, et je rappelle quand même qu'en août 2016, elle a créé une commission consultative pour les Rohingyas. Et c'est une avancée colossale. Personne n'en parle jamais.
Vous l'avez fait. En tout cas, ce qui est important, pardon, je vous coupe encore, mais ce qui est important, c'est de dire qu'effectivement, il y a eu une énorme incompréhension, pour le moins, de la communauté internationale. Elle est devenue persona non grata. On a retiré ses portraits, par exemple, un peu partout dans le monde. Je voudrais qu'on ait une autre voix, parce qu'on est en ligne ce soir avec Yin. Bonsoir, Yin.
Bonsoir.
Vous êtes birmane, vous vivez en France depuis plusieurs années, vous avez appris le français en Birmanie. Est-ce qu'à vos yeux, Aung San Suu Kyi reste aujourd'hui encore une icône ?
C'est une bonne question, oui. Donc pour nous, les Birmans, Aung San Suu Kyi incarne une icône, une héroïne pour tous les Birmans. Comme vous savez, c'est une femme qui a renoncé sa vie de famille et fait le choix de sauver la vie de plusieurs familles qui devaient vivre sous la junte militaire. Donc c'est une personne à présent jusqu'à aujourd'hui qui reste une icône.
Et les Birmans, lui pardonnent ce qu'on évoquait à l'instant, ce qu'on a pu appeler son silence coupable sur les Rohingyas ?
Alors, donc, à mon avis, oui. Pourquoi ? Parce que, à mon avis, les Birmans, on a cette vision de voir les choses. Par exemple, là, quand elle a eu le pouvoir, on croit que ce véritable pouvoir, elle n'a pas vraiment, parce qu'il y a toujours les militaires derrière elle. Donc, elle ne pouvait pas, même si elle a voulu changer les choses, rendre le pays démocratique, mais à cause de cette communication entre les militaires, et elle n'a pas pu faire des choses comme elle voulait, et comme elle voulait garder aussi cette communication.
Elle n'avait pas tout à fait les mains libres, hein, c'est ça ce que vous nous dites.
Oui, exactement, oui. Voilà. Donc, c'est comme ça, on voit les choses. Donc, les Birmans, enfin, nous, ça reste toujours pardonnable pour nous.
Merci beaucoup Yin. On en arrive donc à l'histoire récente, hein, parce qu'on va en arriver aussi à la fin de cette émission, malheureusement. 1er février de cette année, coup d'État de l'armée, elle est de nouveau arrêtée, à 75 ans, elle est de nouveau prisonnière politique. Est-ce que c'est la fin de sa carrière politique, et qu'est-ce que ça va donner sur l'avenir de la Birmanie ?
Ben, certainement pas. Je pense que la réponse de la jeune auditrice est intéressante. D'ailleurs, ça répond aussi à on peut avoir le débat, mais elle a gagné toutes les élections qui ont suivi à chaque fois le problème de ses liens avec les militaires. Donc, je pense que pour la population birmane, c'est effectivement un rempart, une alternative, la seule quasiment, en tout cas une figure derrière laquelle ils ont envie de se mobiliser. Et je pense que ça renvoie à son discours sur la question de la peur. Justement, je crois, il y a une génération, on le voit dans les manifestations, c'est quand même assez jeune, qui ont eu 10 ans d'expérience quand même beaucoup plus démocratique que ce qu'il y a eu avant, peut-être une envie de continuer, et qui se sont libérés de cette peur à l'exemple de leur dirigeante. Donc, encore une fois, c'est peut-être de la réelle politique, mais les gens ont besoin de pouvoir suivre des dirigeants réels, pas des dirigeants qu'on aurait mythifiés ou qu'on aurait mis sur un piédestal. Voilà, c'est une vraie dirigeante qui a fait ses choix, qui est avec son peuple, avec ses qualités et ses défauts. Et je pense qu'aujourd'hui, ça sera très utile parce qu'ils vont en avoir besoin.
Bon, mais écoutez, on suivra ça évidemment, notamment avec vous sur Europe 1, évidemment, Didier François, notre spécialiste des affaires internationales, sachant qu'en ce moment, la communauté internationale est très remontée, que c'est une actualité qui bouge beaucoup. Il y a des sanctions en vue, on va s'attaquer aux intérêts économiques et financiers des militaires notamment. On aura l'occasion d'y revenir. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce débat. Frédéric de Baumy, Sophie Boissieu-Durocher et Yin, qui est birmane et qui était en direct avec nous. Merci beaucoup.
Europe 1, Isabelle Millet.
Restez avec nous dans un instant sur Europe 1. On vous racontera le jour de la naissance du premier bébé éprouvette. Elle s'appelait Amandine. À tout de suite. Et dans le Club des idées, on va maintenant plonger, comme chaque soir, dans les archives d'Europe 1. 3 minutes pour comprendre, pour éclairer l'actualité. Ça s'appelle le jour où.
Jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Victor Chabert.
Bonsoir Isabelle.
Alors on fête un anniversaire aujourd'hui, celui d'Amandine, le premier bébé éprouvette français. Amandine est née le 24 février 1982, elle fête donc ses 39 ans. Il faut se rappeler que cette naissance est un coup de tonnerre dans la France des années 80. C'est aussi un débat passionné qui va apparaître et qui perdure encore aujourd'hui.
Oui, il est 1h20 ce matin-là à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. La petite Amandine pousse son premier cri. Elle pèse 3,4 kg, mesure 51 cm. Mère et fille se portent très bien. Une naissance classique en apparence, sauf qu'elle a été fécondée in vitro. L'équipe qui a réussi cette prouesse se compose du biologiste Jacques Testard et du gynécologue René Friedman. Ce dernier décrit cette nouvelle méthode au micro de Jean-Claude Dacier, le jour même sur Europe numéro 1.
Ça consiste à ponctionner l'ovaire juste avant l'ovulation, à recueillir cet ovocyte qui fait 0,1 mm, à le mettre dans un milieu de culture en présence des spermatozoïdes. Dans ce milieu de culture, à attendre une fécondation, une division, jusqu'au stade de 6-8 cellules. Et à ce moment, c'est-à-dire au bout de 2-3 jours, on le replace dans l'utérus.
La presse titre alors un miracle de la science et le débat s'enflamme.
Alors déjà, l'accouchement a dû être réalisé dans le plus grand secret. Les paparazzis se déguisent même en infirmiers pour couvrir l'événement. Puis vient le débat éthique. Il n'existe aucun cadre légal à l'époque autour de la procréation médicalement assistée. La France se passionne et se déchire. D'un côté, on touche au sacré, à la vie. De l'autre, cette prouesse permettra d'en finir avec la souffrance de la stérilité et ouvre la voie à la recherche embryonnaire. Les soignants eux-mêmes réclament un débat dépassant le cercle médical. François Mitterrand crée l'année suivante le Comité consultatif national d'éthique.
La science d'aujourd'hui,
prend l'homme de vitesse, à tel point que certains chercheurs eux-mêmes ont appelé en conscience à un arrêt de la recherche dès lors qu'elle touche aux manipulations de l'humain.
Et ce n'est qu'un début. Dans les années 90, les choses vont s'accélérer.
En 1992, la mère d'Amandine et le professeur Friedman se retrouvent dans une émission pour les 10 ans de la petite fille sur Europe 1. Le médecin fait état des avancées dans un contexte plus dépassionné au micro de Jean-Pierre Elkabbach.
Je crois que 10 ans après, on est vraiment à la période de raison. C'est-à-dire qu'on connaît les succès, on connaît les échecs, on connaît les difficultés. Et je crois qu'on est plus à même de proposer un traitement dans un cadre défini pour une durée limitée afin que les gens n'y perdent pas non plus leur fragilité, leur équilibre.
Le recours à la PMA va se démocratiser. En 1994, une loi en fixe le cadre strict. Elle ne peut être proposée qu'à des couples hétérosexuels en âge de procréer et pour des raisons médicales.
Alors en 2013, Amandine, elle-même, devient maman d'une petite fille. Et c'est cette année-là, Victor, que la PMA va revenir dans le débat public.
Oui, car 2013, c'est l'année du mariage pour tous. Désormais, on reconnaît le mariage entre deux personnes de même sexe. Vient donc la question de leur parentalité. La PMA permettrait aux femmes seules et aux couples de femmes d'avoir un enfant. C'est un basculement, car le sujet n'est plus uniquement médical et éthique. Il devient sociétal. En 2018, le Comité national consultatif d'éthique rend un avis favorable à l'ouverture de la PMA pour toutes. Emmanuel Macron suit cette position. Édouard Philippe, alors Premier ministre, l'annonce sur Europe 1 le 15 mars 2019.
Moi, je suis bien déterminé à faire en sorte que les engagements pris par le président de la République sur la PMA soient tenus. Le projet de loi sera déposé au milieu de l'année 2019 et l'examen à l'Assemblée nationale et au Sénat interviendra ensuite en fonction du calendrier parlementaire.
Et voilà Isabelle, cela fait 39 ans jour pour jour qu'Amandine est née. Ce débat était encore en discussion la semaine dernière. L'Assemblée nationale tranchera la PMA pour toutes dans les prochains mois. Et je vous donne un chiffre pour terminer. Un enfant sur 30 naît grâce à la PMA en France.
Eh bien merci beaucoup Victor Chabert.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, le rappel de l'actualité avec Julien Pierce et puis musique avec vous. Bonsoir Émilie Mazoyer.
Bonsoir Isabelle.
C'est sur acoustique ce soir.
Oui, avec Hervé. Hervé, écoutez-le là, ici.
Le premier jour du reste de ma nuit, je t'ai attendu longtemps. Le jour je reste dans ma nuit, j'ai pas pu faire sans.
Hervé, révélation masculine, il y a 10 jours, victoire de la musique. Je ne sais pas s'il va venir avec sa victoire, mais en tout cas, je vois qu'il y a ses claviers qui sont là, ses sampleurs, son ordinateur. Et ça va être une session exclusive pour musique.
Tout est prêt, ça va être formidable. Merci, je vous souhaite une très belle soirée, Émilie. Je vous retrouve demain, dès 18h sur Europe 1. D'ici là, on écoute Le Monde Changer, bien sûr. À demain.